Restons debout pour la lecture de la parole de Dieu en Ésaïe 49, les versets 1 à 13. Ils, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie, des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. » Mais moi, j'ai dit, « C'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation, à l'esclave des dominateurs. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable je t'ai répondu, et au jour du salut je t'ai secouru, je te protège et je t'établis, pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs sortez et à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez, ils pourront paître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront rehaussées. Les voici, ils viennent de loin, les voici, les uns au nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Cieux, acclamez, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en acclamations. Car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Vous invitez à vous asseoir. Quant à moi, je vais demander à Dieu qu'il ouvre nos oreilles pour que nous recevions tout ce qu'il veut nous dire. Prions. Père Céleste, tu connais nos dispositions de cœur et d'esprit. Viens nous attendrir par ton esprit qui nous connaît et qui nous façonne. Tu sais combien nous aimons l'autonomie, combien nous pensons toujours, ou souvent en tout cas, nous en sortir par nous-mêmes. Si nous sommes endurcis ce matin, ouvre-nous à ton initiative cruciale à notre égard en Jésus-Christ. Si nous sommes distants de toi ce matin, sensibilise-nous à la douceur de ta direction. Donne-nous d'accepter volontiers le service qui nous a été rendu. Et à notre tour, envoie-nous au nom de Jésus-Christ pour servir et bénir beaucoup d'autres. Amen. Qu'est-ce qu'il nous faut pour changer d'avis sur quelque chose ou sur quelqu'un? Si vous êtes comme moi, vous aurez des idées arrêtées sur toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il vous faut pour en changer? Pour dépasser le « c'est à cela que ça ressemble et pas autre chose » ou « c'est comme ça que les choses sont faites et pas autrement ». En tant que parent, je me rends tout particulièrement compte de ma tendance à avancer avec des ornières sans laisser mon regard s'arrêter sur le trouble, la créativité ou l'ambition que mes enfants manifestent pourtant sous mes yeux. J'avance donc sans me laisser attendrir le moins du monde, parce que je n'ai rien demandé de cela. Il arrive en effet que de très bons points viennent nous embarrasser. Ça n'a rien à faire ici, ça n'a rien à voir. Décidément, ça n'est pas ce que j'ai demandé. Et je dis tout cela à ma honte, bien sûr, car cela tient à la dureté de mon cœur. Ils, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, au verset 1. Ce premier verset invite des gens aussi divers que nous à l'écoute et à l'attention. Et pourtant, je crois qu'il est possible d'entendre ce chapitre 49 et de ne pas frémir du tout. Au début, on ne sait même pas qui s'exprime ainsi. Un serviteur. Quel serviteur ? Il est appelé Israël au verset 3, mais encore au verset 5 et 6, il ramène Israël. Ce serviteur est donc tout à la fois un peuple et un individu singulier. Et voilà qu'il se met à s'épancher sur ses grandes responsabilités, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Il est décrit ensuite comme un guide, le guide, le long d'un parcours ombragé. Mais qui a parlé de rejoindre son troupeau ? Qu'est-ce qui lui prend de s'imposer au monde comme un relais essentiel jusqu'à Dieu ? Et de sous-entendre que sa supervision pourrait ou devrait nous intéresser. Au 1er siècle, il y a beaucoup de juifs en Palestine qui avaient une idée arrêtée sur le personnage qu'ils attendaient, un justicier. Ils voulaient un Christ pour les juger et pour conduire leur guerre. Un Christ comme ça et pas autrement. Les détails de sa relation à Dieu, de ses troubles, ça leur passait au-dessus. Les détails de ses liens, de ses interactions avec les brebis de son troupeau, ça leur passait au-dessus. Ce chapitre 49 aurait provoqué chez ceux qui le lisaient, non un frémissement, mais peut-être de l'incompréhension. Et c'est pas faute pourtant d'avoir été préparé par d'autres écrits bibliques. Quelques chapitres préalablement, au chapitre 46, Dieu préparait son peuple par la bouche d'Ésaïe. « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. » Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Au chapitre 46, écoutez-moi, gens endurcis de cœur. À notre tour, voilà notre défi pour ce matin. Est-ce que nous allons nous laisser interpeller ? Allons-nous accepter de nous défaire de nos idées arrêtées sur le Sauveur qu'il nous faut ? Nos contemporains ne sont jamais trop loin de reprocher à Jésus, il me semble, de s'être mis en peine, pour rien, de sa propre initiative, en vain. La croix les embarrasse, c'est trop. Ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qui lui a pris de se laisser crucifier ? Et nous ? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre et envahir par un Jésus entreprenant, un Jésus peut-être plus intime qu'on aurait pensé, peut-être plus pastoral qu'on aurait pensé ? Ma prière est que nous nous laissions attendrir par les facettes qu'il va nous proposer lui-même dans ce chapitre. Parce que c'est effectivement Jésus qui parle, en tant qu'Israël, un peu plus de 600 ans par avance. Nous allons parcourir le texte en trois temps, suite à quoi nous reprendrons à nouveau les trois mêmes points, avec un angle un peu différent. Premier point, la lumière des nations, à partir des versets 1 à 6. Par trois fois dans cette section, on a ce mot-clé, serviteur, serviteur, serviteur. Et dès qu'on parle de serviteur, on doit se demander quel est le service qu'il rend. Et la question est posée d'ailleurs par le texte lui-même, au verset 4. On y voit le serviteur s'interroger sur son service. Ce serviteur sert donc à ramener Israël à Dieu, ramener spirituellement Israël à son Dieu. C'est le verset 5. Mais encore, il sert à ramener spirituellement toutes les nations jusqu'à Dieu. C'est le verset 6. Représentez-vous un aimant qui va attirer à lui toutes sortes d'éléments métalliques. Représentez-vous une lumière, une lampe allumée qui est mise sur son support pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Un phare dans la nuit dont la lumière s'allume. Quel service immense c'est là pour les bateaux qui naviguaient dans l'obscurité jusque-là. Remarquez qu'en un sens, la lumière du Fils de Dieu était à l'œuvre partout et en tout temps, avant même que ce Fils soit donné au monde, avant même qu'il soit élevé en croix. Le monde n'en a peut-être rien su, et on peut comprendre le découragement exprimé dans ce chapitre, mais rien d'intelligent ne s'y est jamais fait dans le monde, en dehors de la lumière du Fils. C'est par sa lumière que toute conscience est possible chez vous et moi. C'est par sa lumière que toute connaissance est possible chez vous et moi. Dieu fait lever ses lumières sur toutes ses créatures. La lumière du monde, le Fils, l'était donc déjà. Toutefois, son établissement comme tel, dans le cadre de la rédemption, va rediriger les regards de toutes les nations dans le cours de l'histoire. Dès lors que le Christ est établi, les nations de la terre ne peuvent plus s'y tromper. Elles savent confusément ce qu'elles doivent au Christ, en tout cas qu'elles doivent quelque chose au Christ. En tout temps, en tout lieu, elles doivent lever le nez et regarder là, nulle part ailleurs. La salle de spectacle est noire, le projecteur s'allume, il s'arrête finalement sur l'artiste qui se promène sur la scène. Qui voudrait regarder ailleurs ? Mais voilà que quelques spectateurs ont encore le regard en arrière à fixer le projecteur, dont l'orientation change avec les mouvements de l'artiste sur la scène. Et ces spectateurs philosophent longtemps sur cette source de lumière, sans jamais comprendre la connivence qui existe entre le projectionniste et l'artiste. Pendant ce temps-là, peut-être d'autres spectateurs ont les yeux rivés sur leur téléphone, à partir desquels ils regardent le spectacle en direct. Ce qu'ils peuvent y voir relève de ce qui se passe sur la scène, bien sûr. Et d'ailleurs, si ce spectacle s'arrêtait, la transmission ferait que leur écran deviendrait noir. Mais jusque-là, la petite lumière sur leurs écrans les garde bien affairés, comme s'il y avait quelque chose à voir en dehors de Christ, lumière des nations. Toute lumière est dérivée de lui. Beaucoup de nos contemporains ne veulent pas pour autant lever les yeux et regarder frontalement vers la pleine lumière du Christ. Ils ne souhaitent pas que leur cœur soit pénétré. Est-ce que nous, chrétiens, leur avons suffisamment dit qu'à la lumière du Christ, ils retrouveraient le courage de se regarder en face, qu'ils réapprendraient à aimer la lumière, qu'ils se plairaient à penser dans la lumière, à marcher dans la lumière. Penser dans la lumière, repenser le monde et ce que nous y faisons, se représenter un monde créé, un monde intelligent, un monde qui a du sens, et marcher dans la lumière. Parce qu'avec une intelligence redressée, on va savoir discerner et rejeter toute corruption morale et faire le bien. Chers amis, si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous voulez bien vous laisser ramener à la lumière du Fils de Dieu ? Allez écouter, beaucoup de nos contemporains n'en sont pas là. Ils affectent de ne pas voir tout ce qu'il y a de lumineux dans le Christ. Mais s'ils ne voient pas sa lumière, c'est peut-être qu'ils ne voient rien du tout. À trop vivre de façon autonome, à trop regarder un petit écran lumineux, nos contemporains sont peut-être devenus aveugles à comment Dieu illumine le monde, dans la création et dans l'histoire de la rédemption. Difficile pour un aveugle de voir le personnage qu'il a pourtant sous le nez. Mais même un aveugle peut déceler un halo lumineux et s'en approcher. Et après tout, et ce texte nous en assure, ce n'est pas en vain que le serviteur Jésus se permet d'interpeller les nations, de les secouer en ces termes. « Ils, écoutez-moi, peuple, soyez attentifs. » Alors si aujourd'hui vous entendez sa voix, laissez-vous ouvrir les yeux et voyez Jésus-Christ, la lumière des nations, votre lumière. Voilà pour les versets 1 à 6, on va laisser de côté le verset 7, si vous voulez bien, pour mieux y revenir ensuite. Vous comprendrez pourquoi. Deuxième point, le guide du peuple, à partir des versets 8 à 13. Guide du peuple ou même alliance du peuple. Littéralement, au verset 8, il est en effet dit « Je t'établis l'alliance du peuple ». Sa personne fait alliance, autrement dit, c'est sur sa propre personne qu'il fait tenir ensemble toutes sortes de gens qui reviennent à Dieu, à lui et par lui. Il est le garant de leur cheminement jusqu'au bout. Il va figurer par rapport à ce peuple qui s'agglomère autour de lui comme un chef d'alliance. Il va pourvoir à tout ce dont ils ont besoin. Les images, et l'image notamment pastorale qui est employée au verset 9, est belle. Comme tous les détails dans cette seconde partie du passage, cette image n'est pas à prendre de façon littérale. Elle renvoie à la traversée du désert que le peuple a connue autrefois, pour mieux évoquer une conduite spirituelle de notre baptême à notre mort, un cheminement de cette terre jusqu'à une autre terre. Mais pour beaucoup de nos contemporains, l'image qui est quand même utilisée ici, d'un berger, d'un conducteur de troupeau, restera choquante, Qui a envie de suivre un guide? Est-ce que nous sommes des aveugles? Est-ce que nous sommes des incapables? Qui a besoin d'un guide? Vos collègues, voisins et amis sont peut-être choqués de la manière que vous avez d'accepter, d'accueillir la tutelle spirituelle du Christ sur vos vies. Au XXIe siècle, qui voudrait prendre sur lui une tutelle? Et pourtant, à toutes les époques, sauf à la nôtre, on n'avait pas honte à chercher et à solliciter des protecteurs. Tous les grands artistes d'autrefois ont eu des bienfaiteurs et des protecteurs. Les individus que nous fréquentons se passeraient de protecteurs, vraiment? Ils ou elles conduiraient leur vie sans prêter allégeance à des maîtres, vraiment? Il me semble que beaucoup de nos contemporains s'illusionnent quand ils pensent pouvoir se défaire de toutes sortes de liens de faveur, de toutes sortes d'accolades, dont ils profitent pourtant. Dans la plupart des domaines de la vie, j'ai l'impression que ces jours-ci, la figure du mentor est en train de se normaliser, comme celle de quelqu'un qui chemine devant nous et avec nous. À côté de cette relation positive de mentor, on pourrait énumérer des figures beaucoup plus nocives, qui font pourtant notre quotidien. À en juger par la servilité qui se manifeste dans le monde du travail, nous avons tous des seigneurs, et souvent des seigneurs qui détruisent allègrement des individus, des familles, des sociétés. À cette lumière, convient de nous expliquer ce que la tutelle de Jésus aurait de mal. Au passage, il a bien l'intention de nous libérer de ces autres seigneurs. Écoutez le verset 10 à nouveau. « Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. » Nos contemporains sont peut-être endurcis, nous sommes peut-être endurcis nous-mêmes, mais qui n'a pas besoin de recevoir pareil soin, pareil entourage, pareil réconfort? Quel autre Seigneur nous garantira un pareil traitement en mettant toute sa personne en jeu dans la balance, chef d'alliance, garant de nos personnes? Je t'établis l'alliance du peuple. Parole de Dieu aux serviteurs. Que ça nous trouble, que ça nous réjouisse, le Christ a été établi suprêmement comme le mentor, le mécène, le protecteur, le guide, le berger, le gouverneur, le Seigneur de son Église pour commencer. Il est cela pour moi, il peut l'être pour vous. Et logiquement, le verset 13 conclut dans la joie. Cieux, réjouissez-vous. Terre, félicite-toi. Mais avec tout cela, où en est finalement Ésaïe? Est-ce qu'il s'est laissé emporter par sa poésie, par sa verve? Les plus connaisseurs parmi vous pourraient effectivement me dire qu'au chapitre 42, on avait déjà texto le serviteur comme la lumière des nations, le serviteur comme l'alliance du peuple. Ésaïe a dit ces choses-là. Sauf à ce qu'il se répète, il y a peut-être autre chose ici. Et comme c'est souvent le cas, c'est la structure du passage qui va faire ressortir l'élément original sur lequel on doit s'appesantir. Si vous les relisez, vous verrez combien les chapitres, les versets 6 et 8 se font pendant et mettent le projecteur sur ce chapitre, sur ce verset 7. Au verset 6 et 8, on a des deux côtés la mention d'un établissement. On a des deux côtés la mention d'un serviteur qui vient relever d'une part les tribus, d'autre part le pays. La fin du verset 6 mentionne le salut. Idem au début du verset 8. Et le verset 7 commence par le Saint d'Israël et termine par le Saint d'Israël. Les projecteurs sont sur ce verset 7 qui est bien balisé. Et ça sera notre troisième point. Jésus, rejeté et reconnu. Écoutez ce verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation, à l'esclave des dominateurs. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ce serviteur n'est pas sans analogie avec le Cyrus du chapitre 44 et du chapitre 45. Un sauveur odieux pour Israël, un roi des rois néanmoins. Comme Cyrus en son temps, Jésus ne serait pas celui dont Israël attendait le salut. Au point que ceux qui auraient dû faire sa promotion au reste du monde, l'ont repoussé, les siens ne l'ont pas accueilli. Au premier siècle, aux mains de sa nation, Jésus serait malmené, on le promènerait comme un esclave entre Caïphe et Hérode, et on le mépriserait. Jusqu'à nos jours, un groupe persiste à s'appeler Israël, qui continue de reprendre à son compte ce rejet-là. Et si ce n'était que cela ? Mais non, d'un siècle à l'autre, Jésus peut encore se retrouver maltraité, en tant que sauveur ou en tant que seigneur, dans les églises qui portent pourtant le nom de chrétienne. Parce que redéfinir Jésus selon l'ère du temps, c'est finalement l'avoir en horreur tel qu'il est vraiment. Jésus rejeté, donc, est reconnu. Des rois le verront, ils se lèveront. Ce dont on se serait attendu qu'il ne bouge pas, l'ont reconnu. Pour commencer, des rois mages ne sont-ils pas venus de loin pour se prosterner ? Ils ne s'y sont pas trompés. Jésus est bel et bien le Christ d'Israël. Figurez-vous aussi que c'est un chef païen, Ponce Pilate, profondément troublé, qui s'est retrouvé à diriger les regards des Juifs vers leur Christ avec ses paroles. « voici l'homme que vous méprisez, mais aussi voici votre homme. » Et c'est ce même chef païen, issu des nations donc, qui fit placer un écriteau au-dessus de la croix, sur lequel figurent les mots « le roi des Juifs ». Il le fait écrire en trois langues, et par-delà ces langues, il parla pour toutes les nations de la terre. Finalement, Jésus a beau avoir été rejeté auprès des uns, quelle reconnaissance n'a-t-il pas reçue auprès des autres ? On pourrait invoquer l'histoire de l'Église et de par le monde, le nombre de personnes qui ont prêté allégeance, même des têtes couronnées qui se sont soumises. Mais on n'aurait encore rien vu. La seconde moitié du verset 7 parle aussi au futur pour décrire un avenir où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur et nous l'attendons encore. Jusque-là, trois points, Jésus-Christ, la lumière des nations, Jésus-Christ, le guide du peuple, et troisièmement, Jésus rejeté et reconnu. Mais comme je vous le disais, arrivé là, on est bon pour reprendre le sermon depuis le début. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et son compagnon Barnabas, en tout cas, n'hésitent pas à refaire une lecture radicale et troublante de notre passage. Écoutez leur prédication à Antioche de Pisidie, à la fin d'acte 13. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, et voilà la phrase clé, « car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce que vous avez entendu ? Notre passage en Ésaïe 49 est devenu, dans la bouche de Paul et Barnabas, un ordre de mission. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, deux points, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Comment cette lecture est-elle possible ? Eh bien, le personnage qui s'exprime en Ésaïe 49 est appelé Israël, parce qu'il récapitule Israël. Mais alors, ces échanges avec Dieu sont aussi formellement des échanges entre Dieu et Israël. Ils reviennent à tout Israël. Et donc, les Juifs du 1er siècle n'étaient pas loin du compte quand ils comprenaient leur vocation comme d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le maître des enfants, l'éducateur des insensés. Et vous aurez peut-être reconnu un passage de Romains 2. Sauf que tout Israël n'est pas Israël. Dieu s'adressait en Ésaïe 49 au dernier homme qu'il restait à Israël. Disqualification après disqualification. Israël, au 1er siècle, ne se réduirait plus qu'à la seule personne de Jésus. Au point que pour rejoindre Israël, il n'y aurait pas d'autre choix que de s'unir à cet homme-là par la foi. Retenez que si nous avons rejoint le Christ par la foi, alors lumière des nations et guide du peuple, c'est notre vocation à nous aussi. Tout d'un coup, nous voilà sous les projecteurs. Non pas séparément du Christ, bien sûr, mais tout de même. On peut oublier nos espoirs de discrétion. Vous avez peut-être envie que votre vie chrétienne se vive dans l'ombre, et vous voilà rattrapé, forcé de la penser comme un service crucial offert au monde. La vocation chrétienne est lumineuse et il vous faut l'assumer devant tous les peuples. Et ça inclut évidemment les cercles dans lesquels vous évoluez, cousins, parents, amis. Dans son sermon sur la montagne, Jésus n'a-t-il pas dit au petit peuple autour de lui « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». Je ne sais pas vous, mais quand j'entends ces paroles, j'ai envie de répondre au tac au tac « Ah non, désolé Jésus, c'est toi qui es la lumière ». Sauf que nous ne pouvons peut-être pas nous défausser aussi facilement que cela. Dire que l'on veut vivre notre vie chrétienne dans l'ombre du Christ, ça paraît très spirituel. Dire aux gens qui nous entourent, ne regarde surtout pas à moi qui suis chrétien, regarde seulement au Christ. Ça paraît excellent puisque cela renvoie au Christ. Sauf que je ne suis pas sûr qu'on ait la permission de détourner les regards qui se posent sur nous. Plutôt que de vouloir vivre dans l'ombre du Christ, il faut bel et bien assumer sa lumière qui rayonne au travers de nous. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas pour vous et moi de nous illusionner, de nous pavaner. Il s'agit d'être Israël en Christ et pas autrement. Il s'agit de briller en lui et lui en nous. Mais il s'agit bien que nous brillions. Ça doit nous surprendre encore et encore, et quand on connaît l'état de nos cœurs, on en sera d'autant plus surpris. Mais Dieu a choisi de nous mettre en première ligne. Nous sommes censés être sa splendeur, sa parure. Qui est à la hauteur de cette vocation? Personne, sauf Jésus. Et justement, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous appartient alors de nous en remettre à lui dans la dépendance, dans la prière. Et pour le reste, qu'il nous donne de rayonner selon sa vocation. Qu'il nous donne d'être ce qu'il nous ordonne d'être. Deuxièmement, guide du peuple. Voilà donc à notre tour, en Christ, pour Christ, avec Christ, nous sommes établis comme des guides, des libérateurs, des consolateurs, par sa puissance qui est à l'œuvre en nous, pour la joie de l'Église et même du monde. Parmi les chrétiens de culture réformée, ce genre de langage pourrait nous intimider, et pas toujours pour les bonnes raisons. Commençons peut-être par nous interroger avant de nous inquiéter. Est-ce que nous saurions nous-mêmes accompagner un autre croyant dans son chemin de foi? Est-ce que nous saurions libérer? Est-ce que nous saurions consoler? Est-ce que nous saurions guider? Beaucoup de membres de nos églises doivent peut-être réapprendre ce qu'est un ministère personnel ambitieux, l'exhortation chrétienne, la mise en lumière de l'idolâtrie, le réconfort chrétien, Bible en main, le partage biblique en un, et toute autre initiative bienfaisante. Tout cela demande de mobiliser du temps, du courage. Tout cela est épuisant. Pour libérer, il faut accepter d'aller se frotter aux esclavages dans lesquels l'autre est pris. Pour consoler, il faut aller rejoindre l'autre dans son chagrin. Et on n'en sort jamais indemne, vous le savez comme moi. Disons enfin un dernier mot du troisième point que j'avais évoqué. Jésus rejeté et reconnu. Le ministère du Christ parmi les siens a été ingrat, difficile, éprouvant. Le nôtre le sera aussi, il me semble. L'apôtre Paul a été méprisé par des juifs, mais aussi par des éléments chrétiens au sein des églises de Corinthe et d'Éphèse, par exemple. Être méprisé des siens est encore à notre programme, j'en ai peur. Ne soyons donc pas surpris si c'est la chrétienté qui nous donne le plus de fil à retordre. Ne soyons pas surpris si ce sont des personnes qui portent le nom de chrétiens qui se retrouvent à mépriser la foi évangélique avec le plus de virulence. Mais aussi, ne soyons pas surpris si génération après génération, nous voyons de nouvelles personnes fléchir le genou, se prosterner, apporter dans l'Église les richesses des nations. Car il y a aussi cela dans le verset 7. Et ça n'est pas rien comme perspective et comme motivation. Et quand nous verrons quelque chose de cela de nos propres yeux, nous n'aurons encore rien vu de la reconnaissance qui attend les chrétiens quand ils régneront avec le Christ à jamais dans une nouvelle création. Lumière des nations, guide du peuple, rejeté et reconnu. Tout cela vaut pour Jésus-Christ, appelé Israël, et puisque tout cela vaut pour lui, ça vaut aussi pour nous, appelés Israël à notre tour, parce que nous sommes de son Église. Vous me direz, la barre est haute, mais pas si nous la sautons, en lui, avec lui, pour lui, selon qu'il nous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez. Et sur ce, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, tu as choisi d'établir ton serviteur lumière des nations, de sorte que le monde en soit illuminé, et qu'il sache confusément quelle en est la source. Tu as choisi d'établir ton serviteur guide du peuple, de sorte que l'Église soit guidée, bénie, conduite, jusqu'à ce que toute la terre connaisse la joie à son tour. Nous voulons dire ce matin notre émerveillement face à ces initiatives. Permets que nos contemporains entendent tout cela à leur tour par notre bouche et en frémissent avec nous. Nous voulons te dire combien nous dépendons du Christ. Pour la suite, elle nous intimide. Le Christ est monté au ciel et de là, il rayonne et il dirige au travers de gens comme nous. C'est proprement incroyable. Il a osé dire au petit peuple dont nous sommes, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Nous avons du mal à assumer et pourtant, nous avons la conviction que le Christ nous a tant unis à lui que nous sommes désormais embarqués dans un service lumineux et bienfaisant. Apprends-nous à servir. Et nous savons indignes d'être lumière auprès du monde et guide au sein de l'Église. Alors convainc-nous encore et encore que, en et avec Jésus-Christ, nous sommes parfaitement qualifiés. Que notre confiance soit en lui et pas en nous. Déploie-nous à ton service, délie nos langues, pour que ton salut soit apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Je te prie ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.